À partir d'aujourd'hui, nous allons faire un parcours à travers l'épître à Tite, donc écrit par Paul à son collaborateur Tite. Donc aujourd'hui, nous allons lire Tite chapitre 1, versets 1 à 5. Le message sera surtout un arrière-plan pour nous situer pour le reste des plusieurs semaines qu'on va voir ce petit livre. Tite chapitre 1, à partir de verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc, Paul, verset 4, à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciennes dans chaque ville. Bon, ça, c'est le texte. On va voir, surtout, on va voir le verset 1 à 4 tout à l'heure, mais la plupart de ce que je vais dire, c'est en introduction, ok? Donc, Paul invoque ici avant le temps, ou avant tous les siècles, dans d'autres traductions, avant tous les siècles, avant, dans le temps éternel. Donc, il invoque la création dans ce paragraphe. Et il faut qu'on se rappelle qu'il y a un parcours à l'histoire. Ce n'est pas, voilà, par hasard, Jésus est venu un jour. Non, c'est dans un parcours, même nous aujourd'hui, on est toujours dans ce parcours, on va vers un objectif. Donc je commence à l'origine. Dieu a créé l'homme dans son propre image et dans l'objectif de communiquer avec une créature spéciale. Nous sommes spéciales. Dieu n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de créer un être spécial pour nous. Mais il voulait le faire. Il a voulu partager en dehors de lui-même sa gloire. Et il voulait exprimer à autrui son amour. Ainsi, dans l'éternité, donc dans les temps éternels, avant que Dieu a créé le temps dans notre existence, Dieu a conçu notre univers. Il a conçu notre existence et même notre éternité. Parce que c'est ça l'objectif, d'être en communion avec Dieu pour l'éternité. Or, Dieu est éternel. Il existe de lui-même. Tu n'as pas d'origine, il n'était pas créé, il était toujours, parce qu'il est l'éternel, il est celui qui est. Il est l'alpha et l'oméga. Dans l'introduction à Tite, Dieu nous assure que le plan du salut en Jésus-Christ a été bien réfléchi et mis en place avant la création. Grâce à sa toute connaissance, Dieu savait comment l'homme allait agir. Il n'était pas surpris quand Adam a péché. Il savait avant la création que Adam allait désobéir. Donc, par une proclamation divine, avant la création, dans le cours de théologie, on appelait ça les décrets de Dieu. Okay? Les décrets, dans un décret. Dieu a promis le salut de l'homme pécheur. Il a prévu dans sa sagesse le moyen du salut et nous l'appelons le Seigneur Jésus-Christ par l'Évangile. Ayant fait la promesse, Dieu est passé à l'acte de la création. Je vais être clair. La création n'était pas une après-pensée. Oh tiens, peut-être je ferai ça. Oh, je me suis trompé. Oh, j'aurais dû faire autrement. Non. La création n'était pas une après-pensée. La création n'était pas une série d'erreurs et de révisions à travers les milliards d'années. Comme si Dieu était incapable ou comme si Dieu était ignorant. Manque de sagesse, manque de connaissance. Non. Par sa connaissance, sagesse et puissance infinie, la création s'est achevée dans seulement 7 jours. Et la création était très bonne. Ayant créé un environnement parfait, Dieu a placé le premier couple juste là au milieu du paradis terrestre. Alors la Bible ne nous dit pas combien de temps Dieu a communié avec le premier couple dans l'innocence de la sainteté divine. On ne sait pas, est-ce que c'était un jour, est-ce que c'était 1000 ans, on ne sait rien. On sait seulement que Dieu ne comptait pas le temps. Aussi longtemps que ça allait bien. Pas besoin de compter le jour parce que compter le temps, ça veut dire je compte jusqu'à la fin de ma vie. Et Adam était fait pour vivre et non pas pour mourir. Okay? Donc Dieu ne comptait pas le temps. Malheureusement, depuis le moment où Adam a péché, la communion avec Dieu était rompue. L'homme s'est lancé dans un tourbillon de misère et de souffrance et de mort. Alors vous savez, au début de la Bible, dans le chapitre 3, si je le trouve rapidement, ah oui, donc dans Genèse chapitre 3 et verset 15, nous lisons: je mettrai, donc c'est pour dire que depuis le premier péché, Dieu a annoncé qu'il y avait la délivrance, le salut qui allait venir. Genèse 3, 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre le serpent, le descendant de la serpent et le descendant de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écraserait la tête et tu lui briseras le talon. Donc l'idée, c'est que le sauveur allait mourir. Le serpent allait mordre le talon du sauveur. Le serpent allait mordre le talon du sauveur, il allait mourir. Sur la croix, on apprend ça au fur et à mesure à travers la parole de Dieu. Mais le sauveur allait écraser la tête du serpent. Okay? Donc ça part des deux côtés de notre délivrance, la victoire sur le diable. Mais en attendant, combien de milliers d'années se sont passées dans la misère? Et chaque génération meurt. Donc, depuis le moment que Adam a péché, Dieu a démarré, il a mis en œuvre le plan de la rédemption. Alors, dans la Genèse, hein, nous avons les premières étapes de ce programme. Et je ne donne pas tous les détails, mais je saute de point à point. Notamment, on a l'élection, le choix d'Abraham et de ses descendants, à travers Israël, donc Abraham, Isaac, Israël, à travers Israël pour faire connaître au monde le Dieu créateur. Israël devait faire connaître au monde qu'il y avait un Dieu créateur, un Dieu saint, un Dieu qui aimait, tandis que le monde tout autour était les païens adorateurs de diverses idoles et tout ça, les esprits. Aussi, Dieu a choisi Abraham et ses descendants à travers Israël pour inspirer son message qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Et aussi pour faire entrer dans le monde le Sauveur. On sort 2000 ans. Une fois l'évangile accompli. Je veux dire, une fois que Jésus est venu, qu'il a vécu, qu'il a été mis à mort et qu'il est ressuscité, hein, une fois que l'évangile est accompli, le message du salut commençait à faire son cheminement dans et à travers le monde. Je parlais au début de ce parcours, on est dans un parcours. On est dans un plan que Dieu a mis en œuvre depuis le premier péché pour qu'il puisse sauver autant de l'humanité que possible. Et nous, on est dans ce parcours. Mais là, on est 2000 ans après. Dans le message, on est 2000 ans après Abraham. Donc voilà, le 30e année de Jésus. Hein? Il est crucifié, il est ressuscité. Et donc, par la suite, on commence à propager à travers le monde l'évangile. Et donc, les premières parties de ce parcours de l'annonce de l'évangile se trouvent dans le livre des Actes. Au début, dans le livre des Actes, c'est Pierre qui est en vue. Ok? Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je pense 10. Et par la suite, on va focaliser sur le travail de Paul et ses équipes. Donc, dans un premier temps, le salut était annoncé aux Juifs. Pierre était l'apôtre aux Juifs. Et beaucoup de Juifs ont cru en Jésus-Christ. Par la suite, l'évangile était annoncé aux Samaritains. Et beaucoup de Samaritains ont cru. Par la suite, l'évangile était annoncé aux païens. Et beaucoup de païens, jusqu'à nous, ont cru en Jésus-Christ. Pourquoi les gens ont cru en Jésus-Christ? Pour obtenir le pardon de leurs péchés et le don de la vie éternelle. Donc, dans la seconde partie du livre des Actes, quand ça suit Paul, il va faire trois voyages missionnaires. Première, seconde, troisième. Et puis, il va se trouver à Jérusalem, il sera arrêté et à travers un long cheminement, il va se trouver à Rome. Pendant 2 ans, il sera en prison à Rome. Enfin, il est emprisonné, mais c'est dans une maison louée. Et c'est là que le livre des Actes se termine, avec Paul qui est toujours en prison. Par la suite, nous savons, par d'autres écrits de Paul, qu'il a été relâché. C'était l'année 63, à peu près. Okay? L'année 63, donc Jésus est né 3 ou 4 ans avant le zéro. Jésus est crucifié l'année 30. Et nous sommes l'année 63, donc 33 ans après la résurrection de Jésus, que Paul était relâché de son prison là à Rome. Et donc, il a fait un quatrième voyage missionnaire qui n'est pas inscrit dans les Actes des Apôtres parce que les Actes se sont arrêtés avec Paul en prison. Mais quand on lit, on trouve que voilà, il est allé par exemple à Crète. C'était par la suite d'être relâché. Donc c'est dans ce quatrième voyage que Paul, avec son équipe, ils arrivent sur l'île de Crète. Donc on considère que c'est l'année 64. Et à l'époque, il y avait juste à 14 villes. 4 étaient plus importantes et les autres 10 étaient peut-être des petits villages. Et il y avait aussi, on pense qu'il y avait peut-être 2 synagogues sur l'île. Et donc, Paul et son équipe, donc je vais les appeler les évangélistes, ils ont parcouru l'île de Crète. Et par la suite, Paul ne s'est pas installé, mais il est parti. Donc, lui, avec son équipe, ils sont partis pour évangéliser ailleurs. Donc, c'est ça qu'on lit ici dans chapitre 1, verset 3. En allant vers une ville qui s'appelle Nicopolis, qui est sur le côte ouest de Macédoine, un peu vers lui en montant. Alors, Paul a laissé Tite là, sur l'île, pour continuer son travail. Il devait, par la suite, rejoindre Paul dans cette ville de Nicopolis avant la fin de l'hiver. Et là, on le lit dans Tite, chapitre 3 et verset 12. Il y a 2 autres hommes qui s'appellent Zénas et Apollos, encore 2 évangélistes, qui faisaient partie de l'équipe de Paul, mais qui ne sont pas partis avec Paul vers Nicopolis. Ces deux-là allaient partir ailleurs. Mais une partie du mandat que Tite a reçu, c'était d'avoir les dons pour pourvoir pour le voyage. Donc, en faisant ce que Tite avait, il a aussi reçu les dons qu'il a donnés à Apollos et Zénas pour qu'ils puissent partir évangéliser dans une autre direction. Donc, on ne sait pas combien de temps ils sont restés avec Tite, mais ils ont resté quand même un peu de temps avec Tite. Alors, dans le chapitre 3, on apprend que Paul va envoyer soit Artemis, soit Tychique à la fin de l'automne pour chercher Tite et Tite. Donc, on ne sait pas exactement si cet homme qui va venir vers Tite va rester et continuer l'œuvre de Tite ou s'il va accompagner Tite pour aller trouver Paul à Nicapolis. En tout cas, 3 ou 4 ans après, donc on a dit que c'était l'année 64 qu'il est allé à Crète, 3 ou 4 ans plus tard, eh bien Paul va se trouver de nouveau en prison à Rome. Mais cette fois-ci, il est dans une cellule, et dans cette cellule, il va écrire son deuxième épître à Timothée. Donc là, on est à l'année 67 ou 68. Cette fois-ci, il a été exécuté sous l'empereur Néron. Et puis, l'Empire s'est énervé de nouveau contre les Juifs. Et 2 ou 3 ans plus tard, Jérusalem était rasée par les Romains, l'année 70. Ça, c'est une date fixe, 70. Donc, il n'y avait plus de Jérusalem après 70, et après l'année 135, il n'y avait plus d'Israël non plus. C'était tout dispersé. Jusqu'en 1948. Alors, je voudrais lire le texte encore. Tite, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À qui, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soit donnée de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciennes dans chaque ville. Normalement, on parle de 1 Timothée, 2 Timothée et Tite en tant qu'épître pastoral. Les épîtres pour les pasteurs. Mais personnellement, je crois que Tite est un épître missionnaire. Ce n'est pas tellement pastoral, mais missionnaire. Donc, l'équipe a laissé Tite pour organiser les convertis en communauté locale. Donc, on va supposition, bon, je n'ai pas une vraie raison de le dire, sauf que dans les quand on regarde les plans ou les cartes à la fin des Bibles, ils mettent 4 villes sur l'île de Crète. Donc, on va dire qu'il y avait 4 villes où Tite devait régler les choses. Et dans chacune de ces villes, il devait faire voter un responsable. Donc, il est laissé là pour organiser les convertis en communauté. Dans chaque ville où il y a un groupe, il a organisé et organisé sous la surveillance d'un homme respectable, un homme responsable, respectable et capable. Alors cet homme, il devait le faire élire. Et le mot, c'est évêque dans chaque ville. Mais ce n'est pas comme nous, on parle des évêques et des archevêques et des cardinaux et des papes et tout ça. Ça, c'est un mot tout simple qui veut dire seulement un surveillant. Nous, on dit un responsable. Ce sera le mot. Alors, tu vas établir dans chaque ville un responsable. Ça n'a rien à voir avec cette idée de hiérarchie. Okay? C'était tout simple. Regardez, vous avez peut-être 20 croyants et vous allez mettre un archevêque. Non, c'est un homme qui gère la communauté, comme je fais ici dans notre petite communauté. Alors, le travail de Tite a dû durer quelques mois. On ne sait pas exactement, mais il doit arriver à Nicopolis avant la fin de l'hiver. Donc, disons que c'est en été ou en automne que l'équipe a évangélisé l'île. Donc, il a 3, 4, 5, 6 mois pour faire l'œuvre du missionnaire. Incroyable! Pour établir 4 églises dans maximum 6 mois. Et puis, il doit suivre Paul pour aller à Nicopolis. Donc, le travail de Paul et son équipe, qui est partie et laissé Tite là, premièrement, l'évangéliste prêche l'évangile. Tous peuvent aller au ciel grâce à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. L'évangile est pour toute personne. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, donc en attendant notre réunion avec le Seigneur au ciel, eh bien, les croyants forment ici-bas un peuple zélé pour Dieu. Un peuple, et ce peuple est zélé. Ok? C'est pas un peuple endormi. Ok? Vous avez compris. Aussi, donc, ce peuple va se regrouper en communauté, et j'utilise le mot de proximité. Ok? Une église qui est à 2 heures, par exemple, n'est pas très utile. Ok? Une église de proximité, c'est une église où je peux aller. Bon, avec les voitures, on peut aller plus loin. Mais si on n'a pas de voiture, une église de proximité, c'est à 15 ou 30 minutes de chez moi. Hein? Donc, c'est proche. Okay? C'est pour ça que j'utilise le mot proximité. Donc, c'est ça, le travail missionnaire. Okay? Donc, il y a l'évangélisation. Les convertis sont baptisés, donc immergés, dans la crucifixion et résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, les baptisés sont organisés en communauté de personnes baptisées. Et là, ça suit directement l'idée de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Alors, une fois que l'Église est organisée, ou dans son cas, qui avait organisé les églises, eh bien, il est parti. Et c'est ça la distinction entre le pasteur, épître pastoral, et Tite, épître missionnaire. C'est que Timothée restait longtemps pasteur à Éphèse. Et Tite était passager pendant quelques mois, et il devait partir. Et donc, ce n'est pas par hasard que je parle de Tite, car moi-même, je suis missionnaire. Et vraiment, je poursuis consciencieusement le modèle biblique. Je pense que c'est important que nous soyons soumis au mandat biblique. Donc, le missionnaire biblique, et je ne veux pas dire que tous les missionnaires sont bibliques. Okay? Il y a eu des missionnaires qui sont allés en Hawaï et leur objectif principal était de devenir riche et de prendre toute la terre. Okay? Ça, ce n'était pas l'objectif missionnaire. Le missionnaire, il vient pour prêcher l'évangile, mais n'est pas pour devenir riche. Donc, le missionnaire biblique, il ne vient pas pour dominer, mais pour évangéliser, pour organiser et pour se retirer. Alors, je ne parle pas d'une question de temps. Moi, je suis, comment ça se fait que qui, dans 4, 5, 6 mois, a pu organiser 4 églises? Je ne comprends pas ça. Ou que Paul est allé à Thessalonique et dans deux semaines, il a prêché l'évangile, il a baptisé les convertis, organisé l'église, et il est parti. Tout ça dans deux semaines. C'est incroyable. Okay? Mais on ne parle pas du temps. On parle de la maturité de l'assemblée. Okay? Quand l'église est mature, eh bien, le missionnaire doit partir. Notre assemblée est quelque part dans ce cheminement. On n'est pas au bout encore. mais quand même, je suis votre petit. Et un jour, je repartirai vers mon nécropolis. N'est-ce pas? Je ne sais pas où ça se trouve. Mais c'est vrai que nous sommes organisés. Okay? Mais on n'est pas encore mature comme église. Hein? C'est ça qui nous manque. Notre église n'est pas encore arrivée à la maturité. Et puis un jour, il va falloir qu'on soit suffisamment organisé pour appeler aussi un pasteur, un responsable. Donc ça reste pour nous, pour vous, ça reste un sujet de prière. Parce qu'on ne veut pas avoir le mauvais pasteur. On voudrait que Dieu envoie le bon pasteur. Hein? N'est-ce pas? Amen? Ok. Donc là, vraiment, je vous engage à prier dans ce domaine-là, que Dieu envoie dans son temps, comme on voit ici, dans son temps à Dieu, ben, chaque chose dans le temps de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses que j'aimerais faire dans cette direction, dans ce parcours de l'histoire, dans le futur de notre assemblée. J'aimerais continuer nos cours de théologie. Et j'aimerais organiser, même si c'est sur Skype ou sur Zoom, j'aimerais organiser une conférence sur l'église locale. Je prépare un cours pour les méthodes de prédication. Aussi, j'ai une série de leçons sur le leadership ou la direction d'une église. Enfin, c'est comment gérer les choses en général. J'ai aussi un livre des questions et réponses concernant les baptistes que j'aimerais voir avec ceux qui veulent bien. Et aussi, il y a un livre qui s'appelle l'Église biblique locale, que peut-être, je ne sais pas, peut-être les mardis soirs ou quelque chose, on prendra ça comme un livre pour les études. Mais ce sont des choses que j'aimerais bien faire avec vous. Regardons encore maintenant dans le texte biblique. Je voudrais focaliser sur quelques points. Ce que nous allons constater, c'est que l'épître de Tite porte l'autorité apostolique. Tite, je t'ai laissé là pour faire quelque chose. Donc il dit ça à Tite. Mais il dit ça pour les gens de Crète. Et les gens de Crète, c'est moi, l'apôtre Paul, qui a laissé Tite pour vous donner quelques instructions. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas avoir de manque de respect pour Tite. Il faut apprendre ce que Tite va vous dire, parce que c'est moi, l'apôtre, qui a dit, il faut dire ces choses-là. Donc, l'autorité apostolique. Paul a mandaté à Tite un travail, organiser les assemblées et enseigner la vie pieuse ou la vie chrétienne. Okay? Donc, première chose, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi en Bouddha ou la foi dans les arbres ou l'écologie ou n'importe. C'est très spécifique. C'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Et il dit, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La vérité, connaissance de la vérité qui est la vérité selon la piété. Donc cette idée de piété, c'est l'idée de véritable adorateur de Dieu. On peut être, entre guillemets, un bouddhiste pieux. C'est possible, c'est une personne sincère dans son adoration de ce qu'il adore. Mais nous, on parle de la piété chrétienne. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ d'après la vérité. Donc, il veut communiquer la doctrine chrétienne, la foi en Jésus-Christ et la connaissance de la vérité. Ces deux choses-là se reposent sur une promesse de Dieu. C'est ça le prochain verset. OK? Lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Donc, Paul dit ici, dans le caractère de Dieu, Dieu n'a pas dans son caractère la capacité de mentir. Dieu ne change jamais. Il ne peut pas dire oui et non en même temps. C'est une contradiction. Dieu ne se contredit pas. Il ne ment jamais. Quand Dieu a fait la promesse, quelle promesse? La promesse de la vie éternelle. Dieu a promis avant la création qu'il allait donner la vie éternelle. Il parle de Jésus-Christ. Dieu, la Trinité, en lui s'est organisé pour que la seconde personne de la Trinité vienne sur terre, connaisse notre vie, nos difficultés, nos souffrances, nos bons points aussi, et bien qu'il soit crucifié pour porter tous nos péchés. Pourquoi devrions-nous croire en Jésus-Christ et vivre la vie chrétienne? Eh bien, c'est parce que Dieu, qui dit toujours vrai, a promis que celui qui croit en Jésus-Christ a la promesse de la vie éternelle. Ça vaut la peine de croire en Jésus-Christ. Quelle promesse Dieu nous a faite. Mais c'est seulement par Jésus-Christ que nous avons cette espérance de la vie éternelle. Le texte dit que Dieu a promis le salut et la vie éternelle avant tous les siècles. C'était dans les temps éternels. Ce n'est pas pour donner une date dans l'éternité. On ne peut pas faire ça. Mais ça veut dire qu'avant que Dieu a créé notre existence, il a fait cette décision. Il a proclamé cette vérité qu'une fois que j'ai fait la création, que j'aurai fait la création, eh bien, je vais sauver tous les hommes qui veulent bien venir passer l'éternité dans ma présence. Verset 3. Et, donc Dieu a fait cette promesse, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, la première chose que je souligne là, c'est le mot « en son temps ». C'était juste au bon moment que Jésus-Christ est venu. C'était pas trop tard, c'était pas trop tôt, c'était pas aujourd'hui. C'était là, conforme à toutes les prophéties, et on a parlé des prophéties, donc c'était daté dans les prophéties quand le Sauveur devait venir, toutes ces choses-là. C'était au bon moment. OK? Mais je vais vous dire que je n'aime pas la traduction ici. Parce que la signification est bien plus profonde que ce que nous lisons dans le français. OK? Dieu a manifesté sa parole en proclamation. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose? Dieu a manifesté sa parole en proclamation. En proclamation, c'est le grec. En proclamation. OK? Alors, je vais vous lire deux pages plus tard. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, et dans le français, il dit par le Fils. OK? Dans le grec, il dit en Fils. Comme en proclamation, et bien en Fils. Dieu a fait une révélation de lui-même tel qu'un fils représente son père. En fils. Comme on a vu ici, en proclamation. Alors, je vous rappelle que Paul a écrit ces choses au moins 15, peut-être 20 ans avant que Jean a écrit son évangile. Donc, ce n'est pas Paul qui copie, c'est Jean. Mais je peux vous dire que c'est Jean qui élabore, il en élargit ce que Paul a dit. Dieu a manifesté la parole en proclamation. Donc, on va lire dans Jean chapitre 1. Versets 1, 2, 3 et 14, pour nous aider à comprendre cette expression. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc la parole a fait toutes choses et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. OK? Et bien en Tite, Dieu a manifesté sa parole en proclamation. Qu'est-ce que je veux dire donc par proclamation? Verset 14. Et la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu est devenu un homme. Quelle proclamation! Je suis là. Je vous aime. Je veux vous sauver. Je vais mourir pour vous. C'est ça la proclamation. Jésus-Christ, lui-même, Emmanuel, est la proclamation. Il est venu du ciel. Il a pris partie de notre humanité, il a connu notre vie, nos joies, nos souffrances, il était maltraité, et vous savez bien, il était mis à mort. Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Car il a été le Fils de Dieu. Il est mort pour porter tous nos péchés, et maintenant il est ressuscité, il est remonté au ciel, et voilà un message à proclamer. Donc, ce n'est pas simplement que voilà, il y a quelques versets à dire, mais c'est toute la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans cette proclamation qui a été confiée à Paul. Donc, ce n'est pas la prédication devant vous qui est en vue, quand vous lisez dans le français « prédication » qui m'a été confiée. Non, c'est la proclamation de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme et ce message-là, qui comprend la personne, l'œuvre et l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, ça, c'est le message qui était confié à Paul dans le verset 3. Alors, je vais lire le français quand même. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, non, par la proclamation, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite. Donc, Paul écrit à Tite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Je vais lire le reste et je reviens. Que la grâce et la paix te soient données également de la part du Père, Dieu, le Père et de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, je voulais passer une minute à parler de cette foi commune. Okay, parce que c'est un mot qui est un peu différent. Okay? Ce mot peut dire banal, impur, sale, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il est utilisé ici. Mais c'est utilisé dans le sens qu'il y a un seul évangile. Il n'y a pas 5 ou 10 ou 20 évangiles différents. Il n'y a pas 3 proclamations. Une seule. OK? C'est ça le message qui a été confié à Paul. Une seule. Le grand critique de l'église de Corinthe, c'était qu'ils avaient pris la proclamation, le message de l'évangile, et ils avaient détourné à ceci et cela à l'autre chose. Et Paul a dit, non, vous n'avez pas le droit à changer de christianisme. pour revenir à l'origine. OK? Parce qu'il y a une foi commune. Tout croyant, je parle de vrai croyant, hein? Tout croyant partage cette même évangile. Si on n'a pas cette même évangile, c'est qu'on n'a pas du tout de l'évangile. OK? La foi commune n'est pas une hérésie. Ce n'est pas une secte. C'est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la proclamation. Il est la vérité. La foi commune, et ça fait partie de la signification de ce mot, est à la portée de tous. C'est pour les grands érudits et philosophes, et c'est pour le petit enfant qui veut bien croire. Hein? C'est pour tout le monde. Mais c'est la même chose pour tout le monde aussi, mais peut-être on va approfondir notre compréhension selon notre âge et nos capacités. Mais la foi commune, ça veut dire que la foi est à la portée de toute personne. La foi commune, ça veut dire que c'est simple. C'est net et clair. Et donc, il ne faut pas le changer, il ne faut pas l'embellir, il ne faut pas le dégrader. La foi commune que nous partageons. Quand on croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est entré dans le programme de Dieu. Je vous ai dit, avant la création, Dieu a fait son plan. Après, il a fait la création et Adam, il a tout gâché pour nous. Mais Dieu, il fait travailler son plan à travers tous les millénaires. Et nous, on est ici dans le temps. On est là. Et nous, si on entre dans le texte biblique, eh bien, on fait partie de ce programme. Ce programme, c'est que Dieu veut sauver autant de personnes que possible pour qu'ils partagent ça. Enfin, c'est pas partager, mais pour que Dieu puisse faire profiter sa gloire à ses créatures. Faire profiter son amour à ses créatures. C'est ça l'objectif que Dieu a par cette foi commune. Et donc, en attendant, Dieu veut que nous qui représentons la vérité telle qu'elle est dépeinte dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, que nous vivons cette vie pieuse, vie chrétienne, pas d'après telle ou telle église, mais la vie chrétienne telle qu'il est dépeinte dans la parole. Et c'est ça le reste du livre de Tite. Il va expliquer quelle est cette vie chrétienne, cette vie pieuse que nous devons avoir tout en propageant, faire suivre et encore aller plus loin avec le programme missionnaire. Okay.